France Maghreb. Le grand forum, c'est parti, messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue. On est vendredi aujourd'hui et c'est le dernier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien avec Tarek Mami, avec Mehdi Chebaïki, avec Farid Tamsamani. On va refaire l'actualité, bien sûr. Et cette question à la du jour, les questions à la une aujourd'hui. Christophe Castaner qui a reconnu hier, dans un discours, il a reconnu hier qu'un attentat contre une mosquée était possible sur le territoire national et que la parole islamophobe s'était objectivement libérée. Le gouvernement doit-il inscrire l'islamophobie bien dans la loi, même titre que l'antisémitisme? On en parle avec Farid Tamsamani, Tarek Mami et Mehdi Chebaïki. Et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. Algérie, 12e vendredi de manifestation. Les Algériens ont promis de marcher cette nuit. Après les prières de Tahlaoui, eh bien, il y risque d'y avoir beaucoup de monde dans les rues algériennes. Encore une fois, ce vendredi, ce soir, à quoi faut-il s'attendre? Le quiz du LGF. Et alors, on va parler aussi des élections européennes. Et c'est 33 listes, messieurs, dames, c'est beaucoup. Et donc, beaucoup de gâchis en perspective. Imaginez-vous que vous allez recevoir tout ça dans les boîtes à lettres, le papier, alors qu'on est en pleine essayer de faire des économies et essayer de respecter l'environnement. On va gâcher du papier à outrance. 33 listes, donc, est-ce que c'est le prix de la démocratie? C'est la question que l'on pourra se poser, et ce, jusque 18h, avec nos chroniqueurs dans un instant. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, c'est vendredi aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui donc à l'écoute de France Maghreb 2, tout va bien, je cherche la date en fait, on est le vendredi
9.
Merci Farid, merci beaucoup de m'aider.
Et non, et en fait je te dis des bêtises, c'est le 10.
On est le 10, ah bah oui c'est le 10, hier c'était le 9, bah oui forcément.
Désolé.
Donc merci de me dire des bêtises.
Exactement.
Farid Tamsamani, comment ça va?
Très bien, alhamdoulilah.
Saham Danek.
Ramadan Mubarak à tout le monde.
C'est bien passé, tranquille les premiers jours?
Bah écoute, oui, puisque j'ai gratté un jour, puisque j'étais... On escale dans un pays qui s'appelle le Maroc et qui lui le fait toujours.
Ah oui, espèce de malin.
Exactement. Bon,
on va faire 28 jours en fait.
Non,
pas du tout. Faut le rattraper le 28. Ouais. 29.
Non mais comment vous allez faire? Parce que là, si vous avez commencé le mardi là-bas, vous avez raté un jour ici.
Tout dépend de quand est-ce que l'Aïd sera ici.
Normalement le 4 juin, Inch'Allah.
Mais on Aïd dans le pays. Si je dis pas de bêtises. Sous contrôle. Non, on fait l'Aïd là où on est physiquement.
Voilà. Oui.
Et si on a fait que 28, effectivement, il faut rattraper.
D'accord.
Et ce qu'il faut juste pour nos auditeurs, si je peux me permettre, alors je ne vais pas faire le théologien de bas étage, mais en fait, la seule contrainte, c'est qu'on ne le fait absolument pas 31 jours.
Voilà, oui, 31 jours, ni 28 jours. Hein.
Si 28, tu peux 28. Le faire, mais tu le rattrapes en fait.
Oui, bien sûr.
Non, ce qui peut arriver, c'est que dans le cas contraire, on arrive dans un pays où on a déjà fait nos 30 jours et qui lui n'a pas fini le Ramadan. Donc du coup, en fait, on est obligé de casser, enfin de ne pas jeûner malgré le fait que le pays n'est pas encore aïd en fait.
Alors en fait, moi, ça m'est arrivé quand j'étais à Al-Quds, Jérusalem, et je crois qu'il y avait 2 jours de décalage.
Deux, ah oui.
Par rapport à ici. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, j'étais directement à la mosquée le premier soir, et j'ai été voir l'imam ou le mufti, ou on l'appelle comme on veut, j'ai posé la question. Et il me dit, la règle, c'est de faire l'Aïd là où vous êtes, là où les musulmans font l'Aïd. C'est la première règle.
Ou là où on est physiquement.
Là où on est physiquement.
Exactement.
Et dit ça, c'est la première règle. C'est faire l'Aïd avec les autres.
Exactement.
On ne peut pas gêner qu'on les...
Exactement.
On ne peut pas... Non, c'est vrai, vous inquiétez pas, tout va bien.
Non, mais... je suis passé par quelques trucs, cher Christophe. J'ai appris, je vous expliquerai tout à l'heure, lire le verset de Yassine avec une pierre dans la main, et vous comprendrez ce que c'est. Et donc, il me dit, la première règle que vous allez mettre votre tête, on ne fait pas le Ramadan quand les gens fêtent l'Aïd. Donc, faut faire l'Aïd, même si vous arrivez le 26e jour, vous en foutez. Exactement. Faites l'Aïd avec les gens.
C'est ça.
Bon. La deuxième règle, c'est que vous ne faites pas 31 jours.
Ça, c'est la règle. Ça, c'est impossible.
Voilà, c'est les deux. Et donc, il me dit, vous calculez combien de jours vous avez fait. Vous calculez pour faire l'Aïd, vous êtes le jour de l'Aïd ici, ou vous êtes dans l'avion, ou vous êtes chez vous. Je dis, je suis là. Je dis, donc, le jour de l'Aïd, vous êtes avec nous. Donc, maintenant, vous calculez. Si vous avez déjà fait 30 jours, ben, vous cassez un jour avant. Et vous faites l'Aïd avec nous le lendemain.
Exactement.
Voilà. Donc c'est un peu
bon.
À la fois compliqué et simple.
Cher Tarek, cher Farid.
Non,
Farid.
C'est cher Farid.
Non, bon. pas du tout.
Mehdi Chebaïki est avec nous, notre Lyonnais. Salut mon Lyonnais.
Comment
ça va? Ça va et toi, Farid, Mehdi, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Bon, ça va, t'es pas trop mal à la tête, tout va bien?
Ben exactement, t'as tapé dans le mille.
Ah oui, ben voilà. Ça c'est la problématique du ramadan, c'est les maux de tête. Voilà. Mais il est important de bien se nourrir aussi. Vous mangez n'importe comment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Très sucré, tout ça, les sélectos, tout ça c'est mauvais, arrêtez avec tout ça.
Ah là, si on commence par du cliché Zemmouresque, alors là, ça promet une belle émission, là, mon cher Christophe.
Ben la règle, c'est la flotte.
Exact, c'est l'eau, mais dis-le.
La première chose que les maghrébins et les musulmans ne font jamais, ils commencent toujours par autre chose. Ouais. C'est l'eau. D'abord, et ensuite la règle, c'est le maximum de fruits frais,
oui,
et le maximum de fruits possible, avec une partie de fruits acides.
Et pas trop de pain, parce que ça...
Le pain, il exclut, c'est bon.
Ouais, non, mais c'est parce que ça... Ouais. Après, on a les trucs gastriques, là, voilà. L'estomac.
Et après, donc, je ne vais pas faire de la publicité à toutes ces boissons gazeuses, les bonnes et les mauvaises, mais si on pouvait les éviter... Oui, si on pouvait les éviter pendant tout le mois, et en tout cas à l'heure de la rupture du jeûne, c'est-à-dire prendre peut-être un verre à 23 heures, mais pas à la rupture, parce que ça bouscule tout le travail qui a été fait par le corps et tout ça. Je vous dis parce que j'ai écouté depuis le début du ramadan toutes les radios, tous les sites, toutes les choses sur la nourriture. Et donc, il y a une espèce de sagesse qui sort, mais que nous n'appliquons pas, surtout pas en Algérie et en Tunisie, par rapport au Maroc. Parce qu'en Tunisie et en Algérie, si on remplit pas la table et si on mange pas pendant 45 minutes de suite, on a l'impression qu'on n'a pas mangé.
C'est vrai,
alors
et ça pour les Marocains,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ils ont la hrira, le café éventuellement. Ouais. Une rupture d'au moins une heure et après le repas.
C'est ça. C'est ça. Tu confirmes, Farid?
Je confirme qu'effectivement, culturellement,
c'est plus sain.
Pour nous, c'est
pour
comme
le corps.
Ça.
Effectivement. C'est comme ça et c'est plus sain pour le corps.
Et d'accord. Tu confirmes, Mehdi, qu'en Algérie, c'est à outrance, quoi.
En fait non, parce que je mange exactement comme l'a déclaré Monsieur Mamie, donc et pourtant je suis algérien, donc chez nous on fait ça également, voilà, on commence par une hrira, généralement moi j'ai le café au lait ou le thé, c'est selon, et puis après.
Alors je déconseille le café au lait toute l'année. Parce que
vous, oui, je sais.
Voilà, toute l'année. Alors, il n'y a pas plus nocif que le café au lait. Vous prenez un café tout seul, une demi-heure après, vous prenez un verre de lait ou l'inverse, mais le mélange est quelque chose de vraiment
très dangereux.
Très dangereux pour le corps. C'est le petit déjeuner le plus près dans le monde.
C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est bon?
C'est ça le problème, Mehdi. Voilà.
Exactement. Non, juste pour compléter, effectivement, sur l'eau, en fait, il vaut mieux avoir un excès d'eau pendant la rupture, enfin, en tout cas, la période, en tout cas, du mois du ramadan, un excès d'eau que l'inverse. Ouais. Parce que, effectivement, le corps se nourrit essentiellement d'eau. Et parfois, moi, j'ai le souvenir que quand j'étais plus jeune, j'entendais le contraire, qu'il fallait surtout pas boire assez d'eau par peur d'avoir soif dans la journée. Ouais. En fait, c'est une bêtise. Ouais. C'est l'inverse. Il faut plutôt en boire un maximum.
Bon, alors messieurs, on va quitter un petit peu, en tout cas la rupture du jeûne c'est pour bientôt, hein, c'est ce soir évidemment, selon
si Dieu le veut.
Voilà, si Dieu le veut évidemment. Après évidemment chacun a ses petites habitudes, hein, voilà. Tiens, puisqu'on en est à parler de ça, Farid, tu sais, oui, c'est quoi toi tes habitudes? C'est les dates évidemment, ça c'est logique.
La rupture.
Et après comment ça se passe?
C'est logique.
Comment tu manges?
C'est pas toujours. Enfin ceux qui n'y arrivent pas forcément, qui ont pas de date à proximité ou quoi que ce soit, on peut rompre avec n'importe quoi. Le principal, la date, si je dis pas de bêtises, sous contrôle effectivement de gens beaucoup plus savants, c'est une sunna, si je dis pas de bêtises.
Oui, voilà.
Mais il faut surtout rompre en fait. En réalité, on n'est pas obligé de manger à l'instant T, mais il faut surtout rompre, si vous voulez, la journée de jeûne et le moment où à partir duquel, enfin du Maghrib à partir duquel on puisse manger.
Ouais.
Moi,
toi, alors, Farid.
Quand je suis à la maison, quand j'ai la chance d'être à la maison, effectivement, c'est une date, c'est la chance de boire une hrira, soit de mon épouse, soit de ma maman, et ensuite d'enchaîner par un café. J'enchaîne par un café, généralement une viennoiserie, et effectivement, on fait une grande pause, et ensuite, beaucoup plus tard dans la soirée en fait, on fait ou pas, ça dépend, parce que parfois, comme c'est un peu tard en ce moment, on fait un dîner avant ou après. Pour celles et ceux qui ont la chance d'aller à la mosquée pour faire Tarawih, en fait. Tout simplement. Généralement, Tarawih étant relativement tard, on grignote pas comme un vrai repas, en fait. Moi, je grignote légèrement. Par contre, je me couche très tard. Et ce qui fait des nuits très très courtes, en fait, en réalité.
Donc, tu restes jusqu'au Fajr, quoi?
Alors, j'arrive pas à rester jusqu'au Fajr, mais je me réveille pour le Fajr. Et donc, du coup, ça fait des nuits très très courtes en ce moment.
Un repas consistant le matin?
Non, pas moi, c'est léger, c'est léger. Plus pour la forme qu'autre chose.
Bon, Tarek Mamie, vous êtes raisonnable vous?
Ah oui, c'est devenu raisonnable.
Tarek, il mange, après il dort et il remange, c'est ça?
Voilà, et mais je suis devenu très raisonnable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça passe par la deux verres d'eau,
ouais,
pour commencer. Et après, donc, la harira ou la shorba, très bien
selon
faite. Oui, non, mais très bien faite par mon épouse.
Oui.
Après, c'est du grignotage.
Ah oui.
Donc pas grand chose. Et après stop, lecture, des fois j'arrive à dormir, des fois pas. Et je me lève par contre à 4 heures en gros, pour à la fois prendre un petit déjeuner. Alors jamais de café le ramadan, en tout cas pas pendant les 10 premiers jours. C'est du thé.
D'accord.
Le matin tôt.
Ah oui, et justement, et le matin tôt, alors c'est un cérémonial, c'est le thé le matin encore. Et puis ce qu'on appelle en Tunisie, en Algérie, le halwa chamia, qui est consistante, c'est deux petites cuillerées, et puis des fois, je sais pas moi s'il y a quelque chose à prendre ou pas, mais au moins ces deux-là, et de l'eau encore. Donc l'eau, ça permet de tenir la journée. Le thé, c'est de l'eau, mais avec ce bon goût de thé. Et puis la halwa chamia, c'est la chose consistante qui va rester dans le corps toute la journée, et c'est du sucre lent.
D'accord. Effectivement, effectivement. Voilà. Mehdi, chez Baiki, comment ça se passe à Lyon? D'abord, on mange plutôt qu'à Paris déjà.
Je sais pas, j'ai pas vu le calendrier de
moi je te confirme. Je te confirme, on mange plutôt qu'à Paris.
Ah d'accord, bah écoute, tant mieux pour nous. Par contre, on mange plutôt le matin aussi du coup.
peut-être, ouais, je sais pas, ça effectivement.
Ouais, mais... généralement oui, c'est
comment ça se passe chez toi donc? Qu'est-ce que tu fais Mehdi? Comment ça se
Moi, j'ai pas de règle particulière, honnêtement. Même pour que ce soit tant pour rompre le jeûne que pour ce qu'il y a à manger. Alors, shorba harira, ça c'est un grand classique. Après, pour le reste, moi, je suis quand même un grand amateur de briques. Donc, je suis très demandeur de mon épouse des briques qu'elle fait parce qu'elles sont très bonnes. Et puis, mais sinon, voilà, café au lait, ben, comme je vous l'ai dit, pour le matin, par contre, personnellement. Hein, il m'est impossible de me lever pour manger, parce que si je me lève pour manger, je me rendors pas tout de suite. Donc moi, ce que je fais, j'ai une grande bouteille d'eau posée au pied du lit, j'ai le réveil, je fais au moins un demi-litre d'eau, là c'est vraiment comme un chameau quoi. Hein, j'engloutis la bouteille et je me recouche illico presto, parce que sinon la journée est trop dure après.
Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est difficile quand même Tarek, pour ceux notamment qui travaillent tôt le matin.
Oui, mais moi je précise qu'en fait quand je me lève, donc je prends mon petit déjeuner, le manchour, et j'écoute Samy pendant 2 heures. Donc ça fait partie de mon rythme de vie, et je vais me coucher à 6h15 jusqu'à 9h ou un truc comme ça, mais je vais écouter Samy, et je découvre avec Samy, et pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, qu'en fait le public qui appelle le matin est très différent du public qui appelle le soir.
D'accord.
Le public du soir, c'est ceux qui rentrent dans le ramadan, parce qu'il faut rentrer dans le ramadan, pour faire simple. Et donc, peut-être qu'ils font pas la prière toute l'année, peut-être qu'ils font rien. Et pendant le ramadan, bah, ils rentrent dedans. Et donc, ils viennent assoiffés de questions, simples et rapides pour ceux qui savent. Par contre, le public de matin, c'est des gens qui vont amener des problématiques dans la pratique de la religion. Et quand on les écoute, c'est des gens qui sont dans la religion, entre guillemets, et qui viennent chercher le plus du matin. Et ce qui m'a étonné cette année, contrairement à d'autres années, c'est que dès le premier jour, Samy dit bonjour à 4 heures, le téléphone sonne, et les auditeurs n'ont pas arrêté le premier jour, de 4 heures à 6 heures. Moi, je pensais que le premier jour, il va y avoir 2-3, quoi, comme machin. Non, non, ils étaient là, et donc c'est les soldats du matin, ceux-là, et donc c'est un public différent. Si vous avez une insomnie, Mehdi ou vous, Farid, écoutez une matinée, par exemple, samedi matin, ou lundi, ou un jour férié, et vous allez vous découvrir que cette communauté, en fait, est coupée par tranche d'âge, par tranche de pratiques religieuses, et par préoccupations qui sont différentes.
Bon, alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, à notre sujet à la une et cette question. D'ailleurs, c'est un article qui a été publié par France Maghreb 2 hier sur le site www.francemaghreb2.fr. Christophe Castaner a reconnu qu'un attentat contre une mosquée était possible sur le territoire national et que la parole islamophobe s'était objectivement libérée. Le gouvernement, du coup, en découle d'une question. Le gouvernement doit-il inscrire l'islamophobie dans la loi au même titre que l'antisémitisme, Tarek Mamie?
Moi, c'est une demande que j'ai formulée il y a plus de 10 ans, cher Christophe, parce qu'en France, il n'y a qu'une seule chose qui marche. Et encore, les gilets jaunes nous ont montré que ça ne marche pas toujours. C'est la peur du gendarme. Et la peur des gendarmes, les gens se contractent d'un coup, parce qu'aujourd'hui, la loi contre l'antisémitisme, cher Christophe, n'a pas fait reculer l'antisémitisme, y compris l'antisémitisme primaire de la droite historique, de l'extrême droite. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a empêché les gens de le dire publiquement. Quelque part, c'est une espèce d'hypocrisie, parce qu'en faisant la loi sur l'antisémitisme, on se prive de moyens de calcul de la valeur de l'antisémitisme dans la société. Mais comme la société fonctionne comme ça, à mon sens, il faut passer l'islamophobie par la même chose, parce que vous allez, je ne vais citer personne, mais les mêmes qui pérorent à longueur d'années sur les écrans télé, s'il y avait une seule condamnation et s'il y avait cette loi, tout d'un coup, ils vont devenir, je dirais pas sages, mais contraints. Et donc, je suis pour, je l'ai écrit à plusieurs reprises dans ma vie, je l'ai dit à des ministres de l'Intérieur, y compris le dernier de M. Hollande, qui
vous
avait...
Vous n'avez pas été entendu, hein.
Non mais je veux dire,
Christophe, il ne le fera jamais d'ailleurs.
Non mais ça viendra. Moi je vous dis que ça viendra parce que la bataille des idées met plus longtemps que la bataille de la guerre des fusils, des coups de fil. Mais quand elle s'installe, il est difficile de l'enlever.
Bah, la vérité monte toujours par l'escalier, donc un peu moins rapide que l'ascenseur.
Oui, si vous voulez très bien.
Moi je suis pas d'accord avec ce proverbe là puisque nous sommes dans un mois béni, qui est le mois du Ramadan, la vérité n'est pas arrivée par les escaliers.
Non mais je plaisante, mais
c'est pas la vérité. Cette vérité là.
Voilà,
c'est la vérité spirituelle.
Je taquine.
Mais en clair, moi, non seulement je suis pour, mais j'ai toujours... Bon,
en fait, c'est logique cette question que je vous pose aujourd'hui. Oui, l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme.
Non mais
ce qui est pas normal, c'est l'inverse en fait.
Non mais je vais faire même le contraire, si vous permettez, Farid et Mehdi. Pour moi, avoir adopté la loi d'antisémitisme a été l'une des plus grosses fautes politiques de ce pays.
Alors pourquoi on ferait la même faute alors ?
Non mais je vais vous dire pourquoi. Parce que cette loi aurait dû dire antisémitisme, discrimination, tout en même temps dans le même sac, pour qu'on n'ait pas à faire 15 lois à chaque fois qu'il y a une nouvelle discrimination qui naît, elle aurait été dans le sac. Mais on a voulu en faire, parce que la France se sent coupable parce qu'elle n'a pas protégé ses propres citoyens pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle a fait cette loi, et cette loi, ben demain, si on adopte la loi pour l'islamophobie, vous devrez adopter aussi une loi contre l'hétérophobie. Oui. Après, il y aura contre l'homosexualité. Et on aura une loi à rallonge jusqu'au jour où un président vient, dit je mets tout ça dans un package, c'est toutes les discriminations, et après c'est à la justice de déterminer si c'est de l'islamophobie ou d'antisémitisme.
Mehdi, justement, ça paraît logique quand même comme question aujourd'hui qu'on pose. D'ailleurs, 95% des gens ont voté oui. Hein. Il y a 5% qui ont voté non quand même. 95% sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 Mehdi.
Moi personnellement, je suis contre tout ce genre de loi. Alors je vais m'expliquer rapidement. Je suis pour une liberté d'expression la plus large soit-elle, la plus large possible. Le problème, c'est que lorsque en France on est pour la liberté d'expression, c'est un concept qui ne colle pas vraiment avec les valeurs françaises. Au sens, quand je parle de liberté d'expression, je parle de liberté d'expression un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire où chacun vient avec ses arguments qui peuvent parfois blesser, hein, mais face auquel on a toujours un contre-argumentaire. On met toujours des personnes et des débats face aux personnes qui voudraient amener une idée. Et en France, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc on a une liberté d'expression qui est sous contrôle, qui est biaisée, qui est dont on arrondit les ongles, dont on arrondit les angles, en tout cas pour les personnes qui tiendraient un certain discours. Et donc, on a été obligé en France de passer par la loi pour arriver à un certain résultat. Et pour moi, c'est une défaite de devoir passer par la loi. Alors aujourd'hui, c'est certainement une obligation, parce que il n'y a personne qui combat aujourd'hui efficacement dans les médias mainstream l'islamophobie. C'est un constat que tout le monde peut faire. On nie même... Certains leaders d'opinion nient le fait islamophobe en disant que c'est un mot qui aurait été inventé par les Iraniens. Enfin bref, des théories à dormir debout, du complotisme, hein, mais du complotisme accepté. Donc pour moi, cette loi, à la rigueur, pourquoi pas, mais ce serait vraiment une loi par défaut, parce qu'en fait, in fine, c'est la défaite des libertés d'expression.
Une loi par défaut, Farid ?
Bon... Moi, vous connaissez mon avis sur le sujet. Alors, en plus, il y a la comparaison qui vient d'être faite, notamment avec le modèle anglo-saxon. En fait, nous amène toujours à... On a évoqué là à l'instant les valeurs. On nous amène toujours, en fait, au fondement de ce qu'on appelle la République, qui j'accepte, effectivement, sont très mal expliqués, voire pas du tout expliqués pour l'ensemble de la société, pas que pour les musulmans d'ailleurs, pour tout le monde. Mais moi, je suis contre toutes ces lois qui protégeraient, qui feraient semblant de protéger une communauté ou une autre. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elles ont échoué. Si on parle d'ailleurs, c'est très récent que les lois contre l'antisémitisme en fait n'ont quasiment très peu existé. Oui. En vérité, c'est la loi contre le racisme dans son ensemble. Et effectivement, si je dis pas de bêtises, mais là faudrait peut-être s'adresser à un spécialiste, je crois que c'est que tardivement,
2003.
je sais pas si c'est la loi Guesso
c'est la loi Guesso. En fait, c'est la loi Fabius présentée par Guesso.
D'accord. Pour faire et simple. Qui a introduit la notion d'antisémitisme
tout à fait.
Et qui a fait énormément de débats. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit juste avant sur la notion de liberté d'expression. Mais moi j'ai un souci. C'est que, en vérité, la loi, toutes caractéristiques de loi contre l'antisémitisme, ou en tout cas, telles quelles, en fait, elles ont échoué. Parce que l'antisémitisme, un, n'a pas reculé, pire, il a augmenté dans notre pays. Il prend peut-être plusieurs formes aujourd'hui, mais en réalité, il a complètement reculé. Et lorsqu'on discute, d'ailleurs, avec des représentants de la communauté juive, en fait, ils vous disent qu'en fait, cette exception que nous avons fait, alors ils le disent en off, probablement, ils le disent qu'aujourd'hui, en fait, nous regrettons parce qu'elle a complètement échoué. Et moi, j'ai envie de dire tout simplement, c'est pas parce que nos concitoyens juifs ont échoué quelque part que nous, en tout cas les ceux qui se revendiquent en étant musulmans, doivent effectivement faire la même chose. Et ensuite, il y a un dernier point, mais là, je pense que je serai très minoritaire sur le plateau, c'est sur effectivement sur cette notion, sur la terminologie de l'islamophobie.
Ouais.
Je suis contre, et je pense qu'il faut lutter contre le racisme anti-musulman, ça c'est indéniable. La sémantique, malheureusement, je dis bien malheureusement, alors j'ai cru comprendre que un très grand linguiste faisait une émission le vendredi, faudrait même lui poser la question.
Ça, je rafile.
Exactement. D'un point de vue sémantique, l'islamophobie dit autre chose. Or, c'est un problème de liberté d'expression. Et je parle même pas de théologie ou de religion, la haine que certains malheureusement peuvent avoir, ou en tout cas contre l'islam au sens de religion, doit être acceptée. Et doit être, pour nous musulmans, pour celles et ceux qui le souhaitent, être combattu d'une certaine manière, telle que nous est enseigné notamment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, c'est pas à travers un certain, enfin qui nous dit, je m'avance peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit à travers des lois ou une codification rigide qu'on va lutter contre la véritable islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi contre le racisme lié aux actes anti-musulmans. Je pense aux actes anti-musulmans qui concernent les biens physiques et les biens et les personnes qui sont touchées dans leur chair très souvent par du racisme anti-musulman.
Mais si je peux me permettre,
avant d'accueillir Walid.
En fait, avec une loi contre l'islamophobie, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas pour à la base, mais il me semble que ça devra devenir nécessaire. Mais les politiques se défaussent complètement. Ils se défaussent de leur propre responsabilité sur ces 25 dernières années vis-à-vis de la question islamophobe. C'est bien beau d'aller taper sur, le petit citoyen qui est un peu raciste, un peu islamophobe du fin fond de la Lozère parce qu'il aurait eu un mot de trop après un dîner trop arrosé. Ça, c'est bien beau. Par contre, tout ce que l'on voit dans les médias principaux, toutes les déclarations face micro, toutes les déclarations face caméra de nos politiques avec l'appui, bien sûr, de certains médias. Est-ce qu'elles tomberont sous le coup de la loi, ces déclarations? C'est ça qui nous intéresse.
Oui. Pas en France. Non, s'il y a une loi comme pour la loi d'antisémitisme... Non, mais il y a deux choses. L'avantage de la loi, c'est que quand il y a une loi contre l'antisémitisme ou demain, éventuellement, contre l'islamophobie, c'est que le procureur de la République est obligé de s'auto-saisir, c'est qu'il y a une force extraordinaire par rapport à un truc.
Complètement.
En plus, si monsieur le procureur de la République ne s'auto-saisit pas parce que il a pas appris, parce que ça peut arriver, la première association ou le premier citoyen saisit le procureur de la République, qui, après vérification, ne peut que saisir la justice. Et donc, vous créez une espèce de double coperet qui fait que celui qui passe, qui se lâche dans l'émission de Monsieur X, qui parle sport, et qui se retrouve à insulter des gens qui parlent écologie, de musulmans, de je sais pas quoi, au bout de deux émissions, je peux vous faire le pari que ça s'arrêtera.
Alors, parce qu'elle est amateur.
Oui, Walid, Mehdi.
Et avant que Walid m'excuse, moi je suis, contrairement à vous deux peut-être, pour le mot islamophobie, et parce que j'explique historiquement que ce mot a été inventé par l'administration française.
C'est vrai.
Par l'administration française.
C'est complètement vrai.
Et donc, c'est pas les Iraniens, c'est pas les Arabes,
c'est pas
les musulmans. Non, mais il faut leur mettre ça dans la gueule. Excusez-moi, on est en plein
mois de Ramadan. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur.
Qui?
Que nous... l'administration française.
Non, non, l'administration.
Parce que nous, musulmans, on doit tomber dans leur panneau. Non,
l'administration française ne dit pas qu'elle fait une erreur. Elle dit qu'elle fait un constat sur déjà un décret qui date en gros de la fin du 19e siècle, 1998, mais ça a été repris en 1910-1915 par un préfet qui était entre le Tchad, le Mali et l'Algérie.
Walid.
Et il dit voilà ce que les gens me disent. Et moi, en français. Je l'appelle comme ça. Et d'ailleurs, les deux grandes personnalités musulmanes, cette fois, qui l'ont propagé, c'est Étienne Diné. Ça, les gens ne le savent pas. Et c'est son confrère, l'Algérien, avec lequel il a fait une traduction du Coran, entre comme ça. Et ces deux-là, en 1920, ils ont dénoncé l'islamophobie. Et ils l'ont dénoncé d'autant plus qu'en 1920, il y avait la loi de 1905 qui a été déjà adopté, et que c'est des gens qui savaient lire, contrairement aux gens que nous avons aujourd'hui.
Bon. Surtout la loi de 1881.
Oui.
Qui est la liberté, oui. La liberté de la presse,
oui,
de
l'expression, etc. Oui, oui, oui.
Qui est à mon avis, le véritable rempart.
Stop! Ça suffit. Stop. Dans un instant, on est de retour. Mehdi Chebaïki, Farid Temsamani, Tarek Pami.
Et on s'excuse Walid. Auprès de Walid.
Pardon, Walid. Non, mais tu vas devoir attendre un peu la pub, hein.
Mais il passera quand même.
Bah oui, bien sûr qu'il passera, évidemment. À tout de suite. Le quiz, du LGF. Ouais, j'allais faire Ramadan, moi. Je sais pas si ça vous arrive, des fois, il y a le cerveau qui se déconnecte, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et hop là, le temps d'un petit bug. Voilà, dans un instant, on est de retour, le LGF sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Mehdi Chebaïki, Farid Temsamani, Tarek Mami, qui triche, Tarek Mami, je vais le dire tout de suite. Pour le quiz, il a révisé. Bah oui, ça s'effiche, tout ça.
Mais on n'est pas sur le même site. Donc
ben ça va, heureusement. Donc, j'ai regardé, bon, c'est. Mais en tout cas, vous avez essayé, hein, c'est bien tenté quand même. Walid, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, ouais, quelle patience. Non, je sais, mais je plaisante.
On s'informe.
Bah, évidemment.
C'est pas la même chose.
Walid, quelle patience. Ça t'a cru.
Ah, y a pas de souci, c'est normal pour vous, y a pas de problème.
C'est gentil, Walid. Tu nous appelles d'où?
De Paris. Originaire d'Ozor la Ferrière.
Très bien. Alors, tu voulais prendre part à la discussion. On parlait de Castaner qui a quand même s'est rendu compte qu'il y avait des propos islamophobes et qu'il y aurait peut-être d'éventualité d'une attaque. C'est pas exclu, en tout cas, sur une mosquée. Et la question qui en découle, évidemment, toute logique, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire dans la loi l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme? C'est la question que l'on vous pose, mon cher Walid.
Moi, je réponds non et j'ai même répondu sur Facebook. Je répondais non, en fait, parce que. Moi, je vous suis tous les jours.
Ouais.
Et il y a quelques mois, il y avait eu l'étude comme quoi les actes antisémites avaient augmenté d'un peu plus de 70%.
Mmh.
Et durant votre émission, la majorité de vos chroniqueurs étaient contre la loi sur l'antisémitisme. Et moi, pareil, je suis contre. Je trouverais ça malhonnête d'être contre la loi contre l'antisémitisme et de créer une loi contre l'islamophobie. Pourquoi? Parce que déjà, moi je pense que s'il y a une loi qui doit être créée, c'est une loi qui devrait englober toutes les formes de racisme, que ce soit les handicapés, les roux, les musulmans, les chrétiens, les juifs, qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchisation du racisme. Les juifs ne sont pas mieux que les musulmans ne sont pas mieux que les juifs, les chrétiens ne sont pas mieux que les roux ne sont pas mieux que les handicapés. Quand il s'agit de racisme, on est tous pareils, donc quand on est vexé, on est tous vexés à peu près de la même manière. Et ce que je voudrais dire, c'est que s'il devrait y avoir quelque chose contre l'islamophobie, moi je pense que ce serait pas contre le français lambda du fin fond de la France, mais plutôt contre les médias et le gouvernement, en fait, qui peut se permettre d'avoir des propos islamophobes sur les médias, à la radio, n'importe où. Comme là, il y a deux listes, j'ai entendu hier qu'il y avait...
Ah oui, on va en parler tout à l'heure, c'est incroyable.
Qui était contre les musulmans, et ça c'est tout à fait normal, alors que ça aurait été contre les juifs ou les chrétiens, ça aurait été normal.
Non mais on va poser la question sur l'aspect juridique, est-ce que ça s'entend, enfin est-ce que c'est recevable, Tarek? On en parlera tout à l'heure, de ces deux listes anti-islam.
Oui, anti-islam et pas anti-musulman, c'est pas pareil. Anti-islam,
oui mais bon.
C'est pas la même chose.
L'islam c'est les musulmans?
Pas du tout, absolument pas. L'islam, c'est une religion.
Attends, Farid, c'est le Ramadan, s'il te plaît. L'islam est une religion.
Bien sûr.
Et les pratiquants de cette religion,
ce sont des individus. Eh bien, c'est pas la même chose, gars.
Bah oui, mais quoi?
Non, mais je veux vous mettre d'accord tous les deux. L'islamophobie, c'est quoi?
L'islamophobie, c'est la peur de l'islam.
Hein? La peur ou la haine de l'islam.
La peur ou la haine de l'histoire.
Qui est aujourd'hui utilisée contre les pratiquants de l'islam musulman.
Bah oui.
Donc ça, c'est l'islamophobie.
Mais pas que.
Non, mais principalement l'islamophobie.
Vous avez des gens qui ne côtoient aucun musulman et qui ont une haine de l'islam.
Oui, non, mais et qui, donc, par ricochet, c'est comme ça aujourd'hui dans la vie, haïssent en même temps les musulmans.
Oui.
La liste anti-islam, c'est pas la même chose. La liste est anti-islam, on a le droit en France
exactement.
Et ailleurs de critiquer toutes les religions. Et donc c'est pour ça que le Conseil d'État a validé, d'ailleurs j'ai un scoop pour vous, le Conseil d'État a validé hier, cher Christophe,
l'autre liste,
la 34e liste, puisqu'on était à 33, d'un parti que vous connaissez très bien qui s'appelle l'IDMF,
exact.
Donc les musulmans de France. Il a été donc ratifié hier soir et on aura donc un ou deux représentants.
Hors délai en fait.
Non, non, le Conseil d'État l'a rattrapé.
Mais ils étaient dans les délais ou
hors délai? Ils étaient dans les délais, mais il y avait une polémique islam-musulman, comme d'habitude, quoi.
Et là, non, apparemment, il manquait certains documents. Il y avait certains documents qui n'étaient pas valides.
Non, mais.
Donc, ils ont dû les valider.
Oui, pour, voilà.
Comment l'État islamophobe par excellence a pu valider une liste.
Voilà. Donc, le Conseil d'État a validé.
Je plaisante, pour le.
A validé, ouais. J'ai la liste d'ailleurs des gens que j'ai reçu hier soir tard, mais hier soir vers 19h, la liste IDMF, 34e liste, a été validée. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que M. Camus va vous dire, on est en démocratie, la preuve, le Conseil d'État valide ma liste à moi, qui est contre l'islam, et valide l'autre liste qui se fait au nom de l'islam. C'est ça la démocratie française.
Ce qui dans les pays musulmans n'aurait pas été possible.
Oui, impossible.
Qui aurait été impossible.
Oui, mais on se posait la question tout à l'heure, justement, oui, est-ce que c'est ça le prix à payer de la démocratie? Je veux dire, est-ce que franchement,
et puis,
c'est...
Et puis, excuse-moi, mais là, je suis pas du tout d'accord. Excuse-moi, pardon, Farid. Non, je suis pas du tout d'accord sur une chose. C'est de faire un miroir avec les pays musulmans. Il y a strictement aucune raison d'aller justifier, affirmer ou infirmer par ce qui se passe dans les pays dits musulmans,
raison.
D'ailleurs.
Tu as raison. Je retire ce que j'ai dit. Dans les pays non démocratiques.
Ah, là, d'accord. Là, on est tout à fait d'accord.
Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie avec le Hirak.
Ah non, évidemment que non. Évidemment
que non. Ce n'est pas le cas de beaucoup, malheureusement.
Non, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est vrai que quand, par exemple, on prend les listes qu'il y a, il y a anti-animaliste. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est farfelu, quoi.
La liberté.
Oui, mais la liberté, justement.
C'est pas une chaîne
de magasin, ça? Non, animaliste, non, mais sérieux, il y a des trucs bizarres, quoi. Et on se dit que la moitié des, peut-être, de trois quarts des listes vont même pas dépasser les 1%, vont même pas être remboursés. Je veux dire, on se posera la question tout à l'heure. En tout cas, merci Walid.
Et je donne, juste que Walid est avec nous, je donne le nom de la tête de liste de cette liste EDMF.
Oui,
et
c'est Majid.
C'est Najib Azergi.
Najib Azergi, oui.
Voilà.
Oui, il est connu.
Dans la deuxième, c'est Zakari Fatia. Et le troisième, donc, c'est l'islamologue Bassam Tahan.
Très bien.
Mais après, juste une dernière petite chose.
Vas-y.
C'était moi ce qui m'a fait rire, en fait, parce que quand je vous écoute pas vous, j'écoute France Info.
Ouais. Ça change, hein.
Hier, j'écoutais depuis une semaine à peu près, on sait qu'il y a 33 listes, ça ne dérangeait personne, c'est tout à fait normal. On est dans un pays démocratique où c'est normal qu'il y ait une pluralité au niveau des.
Ouais,
listes.
Ouais.
Et comme par hasard, dès qu'il y en a une 34e et que ça concerne une liste qui est censée défendre en gros les musulmans,
oui.
Voilà, ça pose un problème.
Attendez, ça cause des trop, pas les
musulmans. C'est pas normal. Et qu'il faudrait faire une nouvelle loi pour que dès qu'une liste qui veut se présenter, il faut qu'elle arrive avec au moins 1 million d'euros.
Sur France Info, ça.
Oui, sur France Info.
Ouais.
Je peux me permettre.
Ouais. Non, mais je vais m'en permettre. Cette prise de position justifie d'autant plus cette loi contre l'islamophobie.
Non, parce que.
Et je m'applaudis tout seul.
Non.
Parce que France Info ne pourra plus le faire, ça, après.
Il faut quand même être juste, surtout dans ce mois béni. Vous savez très bien que je suis contre les listes dites, entre guillemets,
communautaires.
Ça, je suis contre. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je ne crois pas qu'ils défendent les musulmans.
Non.
Cette liste-là.
Non,
il faut quand même être honnête.
Non.
Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une éthique et qu'ils défendent bien au-delà des musulmans et pas du tout. Et donc, d'ailleurs, eux ne se réclament pas de liste communautaire.
Ouais.
Et c'est tout. Et moi, je remercie Walid parce que.
Ouais, mais
Walid,
quand tu mets le mot musulman dans ta liste, excusez-moi.
C'est pour ça que je suis contre.
D'accord.
C'est pour ça que, à titre personnel, je suis contre.
Ouais. Mais il faut l'assumer jusqu'au bout, quoi. Après, il ne faut pas nous dire,
excuse-moi.
Je voulais virer les farmouchés, si tu vois ce que je veux dire.
Si je dis pas de bêtises, ils ne le défendent pas, les musulmans. Ils défendent.
Non, mais
un certain nombre de thématiques.
Le mot musulman dans le nom de ta liste. Voilà.
Pose-leur la question. Mais moi, je t'ai dit d'un point de vue.
Est-ce que la liste s'intitule UDMF? Je ne crois pas.
Oui, c'est le nom du parti.
Le nom du parti, mais la liste, ça s'appelle pas comme ça.
Alors, la liste, ça s'appelle
comment la liste?
Alors, je vous le dis tout de suite.
Oui, s'il vous plaît.
Une Europe au service des peuples. Il suffit de demander.
Voilà. Là, ça change tout.
Une Europe. C'est pour ça qu'il faut quand même être honnête.
Non, mais là, ça change tout.
Il faut être honnête.
Le parti, c'est EDMF,
ouais.
Et le titre.
Moi, juste, je voulais
une Europe au service des peuples.
D'accord.
Pour revenir à ce que.
Bonne question, Mehdi, bravo.
Moi, je voulais remercier Walid, parce que il a évoqué, d'un point de vue purement honnête.
C'est normal qu'il est d'accord avec toi. C'est pour ça que tu le remercies.
Non, c'est pas ça.
Avec toi et Mehdi, d'ailleurs.
L'honnêteté intellectuelle, c'est.
Ah non, moi je suis. Enfin, je me suis pas exprimé alors. Hein.
Là, je parlais de Walid, pardon. J'ai dit Mehdi?
Non, t'as dit Walid, et j'ai dit c'est normal, c'est d'accord.
Non, parce que Walid il est contre.
Parce que Walid il est contre l'islamophobie,
il fait partie des 5%.
Comme vous deux, quoi.
Il fait partie comme les 5%.
Comment ça, Mehdi?
Mehdi il est plus nuancé. Il est contre, mais vu la situation, il est pour. C'est un petit peu.
Merci monsieur Mandel.
Oui, non, mais je résume bien. C'est un peu comme mon ami Soufiane qui nous écoute. Il était contre les élections du 4 juillet. Et là, depuis 3 jours, dans nos communications, moi, je le pousse au bout, tu vois, je le tétille.
Non, t'as pas le droit. T'arrêtes, mais... laissez-le tranquille, parce qu'il
est. Ce qui est intéressant.
Et il est pour, parce que le gars, il est pour, tu vois. Donc,
l'honnêteté intellectuelle.
Je suis contre par principe, mais les circonstances actuelles m'obligent à être pour.
Bon.
L'honnêteté intellectuelle dont Walid a fait référence, c'est quoi? C'est que, on peut pas, quand ça nous arrange, ou quand ça arrange un certain nombre, déclarer, non, il faut pas.
On est d'accord.
Et quand ça nous arrange pas, il faut, ou l'inverse. Moi, je pense qu'il faut être essayer. Parce
une
que
position toujours... de principe globale pour tous.
Voilà.
La même règle.
Je pense que, effectivement, on pourrait peut-être améliorer le dispositif contre les actes anti-musulmans. Ça, j'en suis complètement persuadé. Je ne pense pas qu'il faille.
Ce qui vous chiffonne, c'est le fait que la loi porte le nom contre l'islamophobie, mais si on faisait une loi contre les actes anti-musulmans, l'accepteriez.
Oui, bien sûr.
Vous l'accepteriez.
Sans problème.
Donc c'est un problème
de sémantique.
De sémantique.
Bien sûr. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que, ça ne concerne que moi, et ça, c'est ma philosophie personnelle. Oui. La manière dont j'étudie ma religion, et notamment la manière.
Il y a mon avis, Sofiane, qui fait ses piqûres, qui travaille, qui a fait ses malades, mais qui n'en rate pas une. Il réagit.
Qu'on salue.
Salut, Sofiane.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que tant le livre saint que je suis pas théologien, donc ça m'embête de parler de ça, mais tant le livre saint que la sonnette du professeur Lossam nous annonce ou nous aiguille pour la lutter contre les gens qui ont du mal globalement ou qui ont une haine de l'islam.
Oui.
Et moi, je pense que aucune loi changera ça. Et d'ailleurs,
on a dit, elle ne changera pas.
On
mais
est d'accord.
Elle fermera le clapet.
Elle fermera le clapet de quelques-uns. Je ne pense pas. Pourquoi je vais vous dire ça? Pourquoi? Parce que la loi contre toutes les références contre l'antisémitisme ont échoué. Et je pense qu'en fait, c'est en éduquant et en changeant les comportements des uns et des autres dans les deux sens qu'on changera, qu'on luttera contre effectivement la véritable islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi, ça ne veut pas dire qu'il faut être beaucoup plus dur contre les actes anti-musulmans.
Mais allez, conclue-moi tout ça, mon cher Mehdi, comme tu sais le faire.
Honnêtement, ce que vient de dire Farid, c'est assez juste, hein, je suis assez proche de ça. Simplement, il y a un principe de réalité qui fait qu'actuellement, ben voilà, si on tape pas, comme l'a dit Monsieur Mamie, si on ne tape pas sur les gens, ben ils continueront à déverser leur fiel. Par contre, là où je serais un peu plus nuancé que Farid, c'est sur le côté éducatif. L'éducation a ses limites. Hein. On peut éduquer comme on veut, on peut essayer de faire entrer ce que l'on veut dans la tête des jeunes. Parfois, ça peut même avoir un effet pervers, c'est-à-dire qu'à se dire, bon ben voilà, ils ont beau nous raconter ça à l'école ou ils ont beau nous raconter ça à la télé, de toute manière, c'est pour nous remplir le cerveau avec des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc bon, sur l'éducation, je pense que il faut un retour à l'humanité surtout. Voilà, il faut un retour à simplement dire ben que, à part la couleur de peau, rien ne nous différencie. On peut être différent culturellement, on peut avoir une vision de la France différente, mais tant que l'on est porté par l'intérêt commun, eh bien, y a pas de problème. Je peux être en désaccord avec quelqu'un, je peux être en désaccord avec quelqu'un qui est à l'opposé de mes valeurs personnel, mais si je sens derrière lui une réelle volonté du bien-être commun, sans vouloir écraser telle communauté ou telle communauté, c'est parti.
Très deux mots sur Farid. On peut avoir été contre la loi contre l'antisémitisme, par principe, et constater, j'allais dire, les dérives et les dégâts qu'il fait contre les citoyens de confession musulmane, et arriver à cette conclusion de dire « j'avais raison ». Quand j'étais contre l'adoption de la loi contre l'antisémitisme, mais les faits sont têtus, comme dirait Durkheim, et aujourd'hui, manifestement, même si les chiffres sont en augmentation contre les actes antisémites, une loi pourrait limiter dans le temps sa pratique. Deuxième chose, et ça c'est le scoop qui me fait rigoler depuis pratiquement 2 mois, c'est la liberté d'expression, l'amendement en numéro 2 aux États-Unis d'Amérique, où tout est libre,
c'est vrai.
Sauf que depuis 3 mois, il y a une bataille sur les réseaux sociaux pour interdire toute promotion de l'islam. Donc même
Mais aux États-Unis ça passera pas.
Non mais il y a des batailles d'ailleurs, il y a deux tribunaux qui ont invalidé des décisions prises par des gouverneurs.
Oui, mais...
parce que l'amendement mais c'est pour vous dire.
Mais les États-Unis,
c'est pour vous dire que les gens sont toujours tentés de tirer la...
Oui, non, mais faut pas se mentir. Après on va pas revenir sur la croyance, est-ce qu'on croit en Dieu ou est-ce qu'on croit en Dieu. Ouais. Ça c'est autre chose. Je à titre personnel, je pense que si on croit à l'au-delà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent ne pas, entre guillemets, nous déranger. Je ne fais pas référence au racisme anti-musulman. Sur l'éducation, Mehdi, il a complètement raison. Hein. Je ne parlais pas de l'éducation au sens uniquement scolaire ou quoi que ce soit. C'est au sens très large. Mais l'éducation, c'est d'abord nous-mêmes. Puisqu'on est en France, on parle très souvent, en fait, quand on parle d'islamophobie, on comprend pas que les gens puissent parler de certaines choses. Pour nous, c'est totalement tout de suite de l'islamophobie. Mais les gens ne le perçoivent pas comme ça.
Oui,
mais pourquoi ils ne le perçoivent pas comme ça? Parce qu'il y a une histoire dans ce pays. Et malheureusement, qui est très très peu enseignée, que nous-mêmes, nous n'allons pas chercher. Mais si il y a un certain nombre de gens qui ont un certain nombre de raisonnements qui, pour nous, sont complètement choquants, c'est parce que ce pays a une histoire particulière face à toutes les religions, pas que qu'à l'islam en général. Et je rappelle juste une chose, c'est que la majorité des gens de ce pays sont historiquement, je dis bien historiquement, de culture catholique, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas subi un certain nombre d'entre eux un génocide, ce qu'on appelle traditionnellement le génocide des Chouans en Vendée, où des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, ce sont des gens qui sont, ils sont chez eux. Et malgré République, effectivement. Ce que je veux dire par là,
catholique, chrétien, protestant,
exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les musulmans, et en ce mois béni, je pense que c'est à nous de faire cet effort-là également. C'est aussi d'aller chercher le pourquoi du comment, l'histoire de ce pays-là. Oui. On ne peut pas uniquement avoir des postures sans connaître l'histoire de ce pays.
On peut quitter ce pays et aller revenir au match de foot et voir comment en Italie les gens se comportent contre les joueurs noirs.
Exactement.
Ah oui, c'est absolument scandaleux. Puisque vous parlez de foot.
Voilà.
Non, mais, on a vécu trois belles soirées de foot d'ailleurs.
Exactement.
Non mais je veux dire, crier comme des singes et en France traiter de gueulant la ministre de la justice en exercice, ça veut dire que le problème de la discrimination est beaucoup plus profond. Et beaucoup plus loin que les juifs et les arabes, les trucs. En fait, on a l'impression qu'on rejette ceux qui sont pas de la religion majoritaire culturelle dans ce pays, mais en fait, on rejette tous ceux dans lesquels on veut pas s'identifier.
Président, c'est juste une chose. Je reviens du Maroc.
Ouais.
Une partie de la population marocaine est noire.
Oui.
Pour parler, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais la réalité, c'est ça.
Il n'y a pas de raison, ils sont noirs, Farid.
Non, parce que moi, je ne fais pas de distinction. Voilà.
Oui, mais la distinction, elle est visuelle, là, en l'occurrence. Je veux dire, c'est pas une distinction, c'est pas une hiérarchisation de dire que quelqu'un est noir ou blanc.
Alors, disons deux couleurs.
Allez, voilà. Vous avez.
Deux couleurs.
Et ce sont des Marocains.
Oui.
Vous avez une immigration subsaharienne au Maroc aujourd'hui, qui est légale, qui est autorisée, puisqu'ils ont des cartes de séjour, etc.
Il y en a même quelques-uns qui ont obtenu, et c'est une première dans le monde arabo-musulman, la nationalité marocaine.
Exactement.
Quelques-uns, il faut saluer ce geste.
Et il se trouve que professionnellement, une partie de mes activités professionnelles sont liées à l'Afrique subsaharienne. Donc je suis profondément africain subsaharien. Même si ça se voit pas forcément physiquement. Ce que je veux dire par là, c'est, donc j'ai un réflexe, c'est que lorsque je suis au Maroc, j'aime aller échanger, notamment avec des gens qui travaillent. Je dis bien qui travaillent. Je ne parle pas de celles et ceux qui essayent de traverser le détroit. Et en discutant avec eux, je discutais avec un frère qui me dit qu'il était originaire du Sénégal. Donc on discute d'où ça au Sénégal, etc. Il se trouve que je connaissais la région dont il était issu, c'est-à-dire le nord du Sénégal, Matam. Et la réalité, c'est qu'il me l'expliquait que malgré le fait qu'il avait envoyé ses enfants étudier dans des écoles privées, maternelles et primaires au Maroc, il subissait la discrimination. Il était musulman comme les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus profond chez l'être humain.
La discrimination au Maroc, elle est très présente.
Il faut pas.
Il y a un racisme anti-noir, il faut le dire clairement.
Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier.
Ouais.
Et pourtant, le Maroc est un pays dont, dans la constitution, c'est un État islamique, le Maroc.
Ouais.
Ça n'est pas une république universaliste comme la France. C'est pour ça que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que tout est blanc ici, dans le sens tout va bien, bien au contraire. Mais en tout cas, il faut aussi nous-mêmes faire cet effort, notamment de recherche historique.
Alors, sur la Tunisie, je rentre, j'étais il y a quelques jours, et il y a deux choses. La première...
Chacun a voyagé avant le ramadan, c'est bien.
Ah,
mais dis, t'as été où toi?
Dans le 7e arrondissement de Lyon.
À Lyon. Alors, il y a deux choses. Il y a quelques mois, après une bataille très très longue, l'Assemblée nationale tunisienne a adopté une loi anti-discrimination.
Oui, c'est vrai.
Officiellement et principalement, même si c'est pas écrit
c'est
comme ça.
Le premier pays arabo-musulman.
Ah ben, c'est aussi le premier arabo-musulman qui a aboli l'esclavage deux ans avant la France.
C'est vrai,
donc
c'est
une espèce de permanence. Et donc, cette loi, elle vise toutes les discriminations pour éviter la discrimination contre les Noirs, justement pour ne pas en mettre le doigt dans l'engrenage, mais tout le monde l'a compris que c'est une, pour éviter. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'une loi aussi progressiste a été boycottée par les médias tunisiens dans l'explication du texte par rapport aux gens.
Oh là.
Alors que et on aurait pensé que certains journalistes allaient en faire une espèce de fierté et expliquer le pourquoi du comment. Deuxième chose, donc j'étais quelques jours à Sousse et la ville de Sousse a fait un choix extraordinaire.
Belle ville.
Oui, et un choix extraordinaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble.
Ouais.
Il y a un nouveau quartier qui se crée à Sousse qui s'appelle Khazama.
Ouais.
Et dans ce quartier, il y a 14 nouvelles rues.
Mmh.
Et la municipalité, cher Christophe,
j'ai vu ça. Oui.
Voilà, et la municipalité décide d'attribuer 5 noms.
Mmh.
Donc 9 noms à des Tunisiens classiques, le premier médecin, la première pharmacienne et tout le tralala.
Ouais.
Et parmi les 5, un citoyen d'origine belge qui a beaucoup vécu à Sousse, il est de culture disons catholique chrétienne.
Protestante, ouais.
Il a eu sa rue. Et il y a eu 4 pour des citoyens tunisiens de confession juive. Et quand j'ai vu la liste des 4, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a une femme sage-femme qui a couché les femmes tunisiennes de la ville, en gros, entre 1950 et 1980, sans distinction de race, surtout pendant les 20 ans où il y avait encore le mélange chrétien, musulman et juif à Sousse. Et donc tout le monde, elle s'appelle Madame Yvonne Bessis. Tout le monde lui est reconnaissant. Un deuxième, il s'appelle Claude Suitban. C'est un avocat. Il a été l'avocat, entre autres, de Bourguiba et de tous les militants du Distour. Et puis, il y a un troisième qui s'appelle Agaï ou un truc comme ça. Et lui, il était l'un des plus grands propriétaires terriens. Et il a offert, avant de mourir à la mairie de Sousse, le plus grand jardin de Sousse aujourd'hui qui s'appelle Bojafa. Et j'étais avec donc des concitoyens tunisiens de confession juive et d'autres. Et ils m'ont dit, Tarek, je leur ai dit après en ma réponse, réflexion ou réflexe français, combien ces plaques vont rester sur le mur? Ah, mais dis pas, j'ai dit oui, parce qu'à Paris, quand on met la plaque pour le 17 octobre, au bout de 48 heures, elle disparaît. Mmh. Et Delannoy était obligé de mettre un garde-corps pendant pratiquement 6 mois pour que les gens, j'ai dit en Tunisie, et j'ai été posé la question, moi, au café, il y a les enthousiastes, ah, c'est une bonne chose, machin, il y a les gens foutistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens foutistes. C'est-à-dire, il dit, alors, c'est des juifs, c'est des tunisiens, rien à cirer. Et c'est ça qui est important dans la culture que
exactement.
Vous dites tout à l'heure et dans l'éducation. Et c'est pas à l'école qu'ils ont appris ça. Ils ont appris qu'ils sont tunisiens ou pas?
Il y a un élément fondamental.
Voilà. Allez-y.
C'est que, si je peux me permettre, c'est que les juifs de Tunisie sont d'abord tunisiens.
Comme les Marocains.
Comme
contrairement
Maroc.
À l'Algérie.
Exactement. C'est que, ils ne sont pas arrivés d'ailleurs. Ils étaient là avant les musulmans. En fait, les gens oublient.
Oui.
C'est que les peuples berbères, par exemple, au Maroc, très souvent, ils sont juifs à la base.
Oui.
Avant même l'islam, ils sont juifs. Moi, je suis originaire du nord du Maroc.
Les Arifins.
Exactement. Mais les Arifins, ils n'étaient pas juifs, pour partie. Ils étaient catholiques.
Oui, oui.
Et certains étaient même polythéistes.
Oui.
Ce que je veux dire par là, c'est que en France, non. En France, l'essentiel...
Moi, ce qui m'intéressait, c'est que les compatriotes tunisiens et français sont partis en Tunisie avec les réflexes et les réflexions de France.
Bon, stop, messieurs. Pub. Et on est de retour très vite dans un instant avec Human Appeal, puisqu'on a lancé depuis tout à l'heure 15h notre Radioton, notre week-end de la générosité pour venir en aide aux Gazaouis, en particulier sur l'aspect médical et sur la structure de l'hôpital de Shifa à Gaza, qui est l'hôpital principal de Gaza. On fera le point évidemment sur ce Radioton en vous incitant à donner, à participer bien sûr. Le quiz du LGF et puis on parlera de ces élections européennes, on y arrive à grands pas. On n'oubliera pas quand même de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer ce soir en Algérie? Il paraît qu'ils vont aller marcher après les prières de Talaoui ce soir. Voilà, on attend du monde encore dans les rues algériennes.
Je crois qu'ils vont exprès pour attendre.
Mehdi, un petit avis tranché, tu me l'as demandé au fait.
Ils attendent sûr.
Mehdi.
Oui, ça.
Mehdi, t'es où? T'es là?
On l'a perdu.
Bon, on va le retrouver en tout cas dans un instant.
Il est parti au 7ème arrondissement.
À tout de suite.
France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan.
Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le diabète est un fléau suffisamment grave et important pour lui consacrer plusieurs chroniques. Dans cette chronique Santé du Ramadan, je définirai d'abord ce qu'est le diabète. Je parlerai du jeûne dans les chroniques suivantes. Voici donc une conversation classique entre deux personnes. Karim, qui a 18 ans, dit « Je suis démoralisé. Mon médecin m'annonce que je suis diabétique et là, il y a Ramadan qui arrive. Il me dit que je ne dois pas le faire. » Abdou, qui a 45 ans, lui répond « Mais moi aussi, je suis diabétique depuis 5 ans et je le fais. Je suis en pleine forme. Les gaouris ont tendance à exagérer. Tout le monde est diabétique. » Karim est évidemment partagé entre les recommandations de son médecin et les paroles de son ami qui est plus âgé, qu'il respecte et qui a forcément plus d'expérience que lui. Et vu le climat islamophobe en France, peut-être que le toubib, mot venant de l'arabe tabib, exagère la situation et que finalement, il peut jeûner. Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est une maladie chronique qui dure tout le reste de la vie. Autrement dit, quand on est dépisté diabétique, on n'en guérit jamais. Cependant, on peut être parfaitement équilibré au niveau du bilan sanguin et avoir une vie normale à condition de s'éduquer à une vie et une alimentation plus saine. Elle se traduit par une augmentation anormale et permanente du taux de sucre dans le sang. Le dépistage de ce diabète se fait par prélèvement sanguin en laboratoire. Quand la glycémie à jeun, sans manger ni boire depuis 20 heures la veille, est supérieure à 1,26 g par litre, à deux reprises, le diagnostic de diabète peut être posé. La première réaction est de se dire « Mais si j'ai beaucoup de sucre dans le sang, j'aurai de l'énergie à revendre. Où est donc le problème ?» Le problème est que, pour bien fonctionner, le Créateur a fait en sorte que l'organisme ne dépasse jamais un certain taux de glucides dans le sang, de sucre dans le sang autrement dit. Si ce taux est dépassé, ce sucre se met à attaquer les artères de l'organisme, les petites comme les grandes. Les petites artères sont les vaisseaux qui ramènent les nutriments et l'oxygène aux yeux, aux reins, au système nerveux, cerveau et nerfs, au cœur, à la peau, etc. Que des organes nobles. Mais quelles sont les complications les plus connues et les plus fréquentes à moyen et long terme ? L'atteinte des yeux, plus particulièrement de l'outil le plus incontournable de la vue, la rétine. La vue va baisser progressivement sur plusieurs années jusqu'à la cécité, perte de la vue. De nombreuses études montrent qu'après 15 ans de diabète mal soigné, 10% des diabétiques ont un handicap visuel important et 2% perdent définitivement la vue. L'atteinte des reins. C'est l'insuffisance rénale chronique des reins qui guettent, c'est-à-dire que le patient ne peut plus uriner, les toxines se concentrent dans son sang et peuvent le mener au coma ou pire. Elle peut aboutir à la destruction des reins, le patient diabétique sera dialysé. La dialyse se fait par un appareil spécial qui devra filtrer le sang à la place des reins. Cet appareil est lié au système vasculaire, c'est-à-dire au vaisseau sanguin, à l'aide d'une seringue à haut débit. Cette dernière est plantée dans une veine artificielle, cette veine n'existe pas naturellement, il faut la créer. Créer un shunt après un passage au bloc. Cette dialyse est le seul moyen pour garder le patient en vie en attendant la greffe de rein. Cette greffe qui ne peut jamais arriver faute de compatibilité ou de manque de donneur. Ensuite, il y a l'atteinte cardiaque. Le diabète accélère la formation de plaques d'athérome.
Bah oui, heureusement.
Les couches de cholestérol sont les parois des artères coronaires. Ce sont les artères qui irriguent spécifiquement le cœur. Ces couches
vont
bloquer les vaisseaux cardiaques et provoquer un accident cardiovasculaire. Autrement dit, une crise cardiaque ou un infarctus, qui peut être fatal. Cet accident peut générer un handicap fonctionnel aussi, en fonction du territoire cardiaque atteint. Il est important à signaler alors que les diabétiques ont un risque 3 à 5 fois supérieur à la population normale d'avoir un accident cardiovasculaire. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité forment ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique est le synonyme d'une dégradation importante de la santé qui mènera inéluctablement vers le décès si le patient ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire maigrir ou stabiliser son poids, avoir une activité physique régulière, prendre son traitement correctement et arrêter de fumer et mieux s'alimenter. Enfin, l'atteinte du système nerveux est responsable de la neuropathie diabétique. Les fibres nerveuses, c'est-à-dire les nerfs, sont atteints et causent des engourdissements. C'est-à-dire que le patient ne sent plus ses jambes, pieds, orteils. Il y a des sensations de fourmis ou de courant électrique, jusqu'à la perte de sensation dans les extrémités. Chez l'homme, la neuropathie diabétique peut engendrer aussi l'impuissance sexuelle. L'atteinte cutanée est aussi due à la neuropathie qui, associée à une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, peut engendrer des ulcérations de la peau. Ces ulcérations sont le résultat de l'altération, destruction des petits, moyens et grands vaisseaux. Il est important à savoir qu'une ulcération mal soignée peut aboutir à une amputation d'orteil ou au pire. Le drame de cette maladie est qu'elle ne fait pas mal. En tout cas, pas tout de suite. Dans l'inconscient populaire, une maladie grave est une maladie qui va faire mal ou qui va aliter la personne souffrante. Le diabète est une maladie pernicieuse et vicieuse. Elle détruit le corps doucement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un vrai problème de santé publique, dangereusement banalisé par ceux qui en souffrent. Nous verrons prochainement les différents types de diabète et leurs différentes interactions avec le jeûne. Que le Tout-Puissant agrée nos intentions et nos bonnes actions. Wassalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi. Une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr.
France Maghreb 2 vous souhaite un beau Ramadan.
Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec tout de suite Farid Tamsamani qui est avec nous, avec Tariq Pami, avec Mehdi Chebaki qui nous prépare un avis tranché d'ailleurs, dont le titre c'est quoi ce Ramadan, c'est ça?
Exactement.
Bon, à suivre dans un instant. Pour l'heure, nous avons lancé depuis 15h, messieurs dames, notre Radioton, le week-end de la générosité avec Human Appeal. Nous sommes avec Brahim, manager chez Human Appeal. Bonsoir Brahim.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc depuis 15h et avec Maïssa, nous avons lancé ce Radioton tout à l'heure où tout le week-end nous allons solliciter nos auditrices et auditeurs qui, je le disais à Maïssa tout à l'heure, et ça a été prouvé à de nombreuses reprises, les auditeurs de France Maghreb 2 sont les auditeurs les plus généreux que les radios puissent compter. Et ils vont encore vous le prouver, donc avec cet objectif, Brahim, ce week-end, de récolter une certaine somme, 50 000 euros, d'essayer en tout cas. Et pourquoi? Ouais. Eh bien, pour essayer d'axer sur un aspect médical. Parce que votre correspondant à Gaza nous vous le disait, l'aspect médical, c'est vital, c'est une question de vie ou de mort, Brahim.
Exactement, exactement. Donc bonjour à toutes et à tous, à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Donc un très très bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Et donc effectivement, là nous mobilisons, toutes les équipes de Human Appeal France se mobilisent pour répondre à cet appel d'urgence qui émane du ministère de la Santé, donc de palestinien, directement à Human Appeal en disant: si vous pouvez faire quelque chose, ben c'est le moment ou jamais pour justement venir en aide et soutenir les hôpitaux qui manquent cruellement de médicaments. Et donc vous connaissez tous le contexte, je pense que c'est pas la peine de le rappeler, le contexte de Gaza, le contexte que vivent les Gazaouis depuis plusieurs années. Vous avez vu dimanche dernier les différents bombardements qui ont aggravé la situation avec des dizaines, même des centaines de blessés. Et voilà, nous faisons appel à votre générosité, à la générosité des donateurs et des auditeurs de France Maghreb 2, justement pour venir en aide à cette population qui est complètement abandonnée et qui souffre depuis plusieurs années. Et nous n'avons pas le droit de laisser cette population dans cet état-là. Nous devons intervenir et aider du mieux que nous pouvons. Donc n'importe quel don est important, 1 euro, 2 euros, 10, 15, 20, 30. Donc n'hésitez pas à appeler au standard de Human Appeal.
Ouais.
Et d'exprimer votre générosité donc durant ce mois de Ramadan, ces jours de béni du mois de Ramadan. Et vous savez très très bien que voilà,
je rappelle Brahim, le numéro de téléphone, oui, pour justement donner, comme reprendre une célèbre chanson, 01 42 46 36 36 42 46 36 36.
Effectivement, c'est bien ça. Et puis bien sûr, vous avez aussi le site internet humanappeal.fr. Vous tapez humanappeal.fr, vous pouvez faire votre don, c'est sécurisé. Vous choisissez le projet que vous souhaitez financer.
En l'occurrence, donc, urgence pour Gaza.
Voilà. En l'occurrence, donc la santé et les médicaments pour l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Et je vous rappelle que Human Appeal France a financé dernièrement, et d'ailleurs les travaux sont en cours actuellement. Ils sont en cours de finalisation, donc ils vont se terminer d'ici peut-être quelques jours. Nous sommes en train de réhabiliter, de rénover entièrement la salle, le CT scan, donc le département radio de l'hôpital de Shifa, donc avec pratiquement un budget de 120 000 dollars et entièrement financé donc par Human Appeal France. Et grâce à cette rénovation, c'est plus de 22 000 personnes par an, 22 000 patients par an qui vont pouvoir bénéficier de cette salle radio scanner de l'hôpital à Shifa.
très bien. Brahim, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 19h avec cher Baj Rafid. Vous pourrez évidemment nous donner un petit peu les avancées, l'avancée des dons hein, qui sont à disposition, que les gens peuvent faire d'ores et déjà. On rappelle les, voilà, les coordonnées de téléphone, cher Brahim.
01 42 46 36 36. 01 42 46 36 36. Appelez. Vous êtes généreux. La communauté musulmane, les auditeurs sont très généreux. Ils le sont déjà. Ils le sont encore plus durant ce mois de Ramadan. Donc n'hésitez pas à appeler et exprimer votre générosité au profit donc de la population, des populations de Gaza.
Merci Brahim, et à tout à l'heure, 19h30, on fera un pas sur le compteur, hein, d'accord ?
D'accord.
À tout à l'heure Brahim, salut. Voilà, donc n'oubliez pas vos dons tout au long de ce week-end hein, avec Human Appeal pour venir en aide. Et c'est vrai, on se dit tout le temps, oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour la Palestine d'ici ? Ben voilà, vous avez la possibilité d'agir, d'appeler, de donner 1, 2, 10, 20, 30, 40... etc. sans limite après des dons évidemment pour aider Human Appeal à récolter cette somme pour soutenir et venir en aide l'hôpital de Shifa, donc l'un des c'est l'hôpital plus important de la bande de Gaza, c'est l'hôpital principal qui a été plusieurs fois mis à mal par les bombardements évidemment, et aussi concernant l'eau potable, il y a toute une structure qui est mise en place par Human Appeal qui sont présents sur place. Human Appeal d'ailleurs, je ne savais pas, mais fait partie des rares organisations à être présente au Yémen par exemple.
Tout à fait.
Et ça c'est rare étant donné la difficulté à intervenir au Yémen. C'est un petit peu un no man's land voilà, à l'état pur pour le coup, avec cette épidémie de choléra, et Human Appeal donc agit justement pour envoyer des traitements pour soigner cette maladie terrible. Alors, on va avant notre quiz parce que le temps passe vite, mais vous êtes tellement bavards tous les trois hein, que on va passer maintenant à la vie tranchée de notre ami Chebaïki du côté de Lyon. On file du côté de Lyon pour C'est quoi ce Ramadan jingle, c'est parti. Le titre de cet avis tranché donc, c'est quoi ce Ramadan, Mehdi Chebaïki ?
C'est quoi tout ce Ramadan ? Parlons-en, tiens, du Ramadan, il est beau ce mois, tiens. Ah, ça pourrait être beau, il est beau pour les commerçants, pour les grandes surfaces. Certainement pas pour les habitants des quartiers populaires, ni pour les riverains des mosquées, et encore moins pour les RH de certaines entreprises. Les quartiers populaires, soit dit en passant, joli mot pour ne pas dire ethniquement différent. Ces quartiers populaires peuplés de gens prétendument musulmans, mais pas que, deviennent en cette période des lieux de vie nocturne où l'on discute, ou plutôt où l'on crie, où l'on se prend à jouer, rejouer la Ligue des Champions jusqu'à 2h du matin. Mieux encore, les soirs de Ramadan, ces quartiers se transforment en pistes bitumées pour motocross lors de démonstrations ridicules de wheeling entre les tours, histoire que le son du moteur résonne encore plus fort. Ramadan sur le macadam, comme un titre de mauvaise série B. Mais cette série B, c'est notre réalité. Bref, voilà comment on empêche des milliers de personnes de dormir sous couvert d'obligations divines. Un beau mois de spiritualité. Maintenant, parlons du Ramadan dans les mosquées, ou plutôt du Ramadan devant les mosquées. Ah, les mosquées de France, ces lieux si sereins, si empreints de calme les soirs de mois sacrés. Non, non, je plaisante. Pendant le Ramadan, ces lieux deviennent l'objet d'une course à l'échalote où l'on s'y presse pour effectuer la prière de Tarawih. Une prière qui semble si importante qu'elle passe même avant la tranquillité des voisins de la mosquée. Une prière si importante qu'elle permet aux musulmans de se garer sur les trottoirs, sur les places handicapées, voire carrément devant le portail des habitations, car c'est bien connu, les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à leur sortie de garage pendant Tarawih. De plus, il est certain que les riverains adorent le son de ces moteurs qui tournent, pendant que les fidèles polémiquent sur la beauté de la voix de l'imam ou sur le sujet primordial qu'est l'état d'avancement de la lecture du Saint-Coran. Un bon mois de fraternité. Allez, un petit dernier pour la route. Parlons d'un cas fort heureusement ultra minoritaire, mais particulièrement révélateur. Les musulmanteurs du Ramadan. Ceux qui vont chez leur médecin en pleurant de douleur et en ressortent en sautillant de joie. Joie d'avoir obtenu le sésame ultime. Le précieux arrêt maladie du Ramadan. Celui grâce auquel le musulmanteur pourra vaquer à sa fainéantise en se levant à 14h, aller déranger les riverains devant la mosquée le soir et s'empiffrer jusqu'à la dernière minute, le tout payé par le travail des autres. Et agib. Et puis tant pis si ses collègues devront travailler plus pour gagner moins. L'important, c'est qu'il passe son Ramadan au KLM. Mashallah les frères, ils ont tout compris. Ce Ramadan, est, disons-le clairement, une machine à créer du racisme et se trouve à l'opposé complète des valeurs du mois de jeûne. Non content d'avoir face à nous des médias qui s'attaquent à tout ce qui a trait à l'islam, nous avons à nos côtés des co-religionnaires qui entreprennent un travail de sape de notre image encore plus grave. Heureusement que nos frères et sœurs, dans leur immense majorité, font en sorte de ne pas imposer leur choix de vie aux autres, en faisant preuve de contrôle, en faisant preuve d'amabilité pendant ce mois, en évitant de gêner leurs voisins, en organisant partout en France qui des soupes populaires pour les plus démunis, qui des aides au logement, en se réunissant dans les mosquées ou dans les maisons pour évoquer Dieu et son messager dans le calme, la sérénité nécessaire à ces activités. Ce mois béni est une épreuve pour les musulmans, mais parfois c'est aussi une épreuve pour nos concitoyens, non musulmans. Alors je n'aurai qu'une seule requête auprès de ceux qui prennent ce mois sacré pour le défouloir nocturne de leur privation diurne. Si vous respectez un tant soit peu ce en quoi vous dites croire, arrêtez tout ce ramdam et accomplissez le jeûne du mois de Ramadan.
Merci Mehdi, très très important. Merci en tout cas, merci mon Mehdi, parce que c'est vraiment un message qu'il faut entendre, qu'il faut accentuer. Et c'est vrai, penser aux autres, c'est vrai que le soir, quand on va aux prières de Talawir dans les mosquées, c'est un véritable scandale. Et il y a des mosquées qui ont commencé à mettre en place des services d'ordre, enfin des gens qui accompagnent et aident les fidèles à se garer, à pas faire de bruit, à éviter de klaxonner, à éviter de parler fort quand on est en bas. Des habitations, effectivement, ça fait partie du vivre ensemble, ça, messieurs. Je sais pas, c'est logique, non? Mais Farid ou Tarek, c'est un truc à dire là-dessus?
Bon, je crois que Mehdi a tout dit.
Ah oui, non, mais réalité, c'est parfait, c'est nickel.
C'est exactement ça.
Ouais.
On parlait tout à l'heure d'islamophobie. Ça, c'est la véritable naissance de l'islamophobie. La haine des musulmans, c'est quand nous-mêmes, alors que effectivement, c'est un mot qui nous dit tout le contraire, on fait tout pour que nous faire détester. Faire de la bécane de crosse.
Ouais, ça,
c'est bon.
On ça, je l'ai vécu, ça.
On l'a tous fait quand on était gamin, en journée, mais à 2h du matin, franchement. Ouais.
C'est roulant.
Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une pensée à, bon, Mehdi l'a dit, mais j'ai une pensée à tous les gens qui vivent encore dans les quartiers populaires, qui ne sont pas musulmans, et qui sont malades. Et qui sont malades, et qui jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, qui vont travailler parfois, entendent les uns et les autres, brailler sur tout et n'importe quoi, parfois sur des choses qui n'ont strictement rien à voir d'ailleurs avec le ramadan, et qui sont incapables et qui n'osent pas l'ouvrir, parce que dès qu'ils l'ouvrent, ils sont forcément taxés, et ou pire, parfois même agressés. Donc effectivement, là, Idina, et j'espère qu'on essaiera de s'assagir.
Bon. Amine, et j'aimerais juste rajouter une dernière chose.
Oui, en fait,
c'est à vie tranchée. Bon, voilà, on connaît tous la situation, mais là, il y a eu un procès d'un amant à Lyon, le procès d'un chauffard. Bon, c'était dans la banlieue lyonnaise, hein, c'était il y a un an ou deux ans. C'est quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui roulait à 122 km/h dans un endroit limité à 50 km/h, qui a tué un frère et a fait, enfin il y avait deux frères dans l'autre voiture, l'un est mort, l'autre est handicapé. Et ce qu'il a dit pour justifier le fait qu'il roulait à cette vitesse, devinez ce qu'il a dit, c'était il y a 2 ans.
Pour ne pas rater la prière.
Voilà, il était pressé pour aller manger. Il était pressé de rentrer manger parce qu'il faisait le ramadan. Et donc le juge, alors ça c'est dans les journaux, c'est ce qui était écrit, le juge lui a donc posé la question, mais alors donc pour vous, la loi divine passe avant la loi de la République. Moi je pense à la famille de ces gens-là qui ont perdu un enfant et dont l'autre est handicapé à vie. Je pense à ce juge qui se retrouve à juger ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est incompréhensible.
Ouais. Triste, effectivement. Allez, il nous fallait bien un peu de pub pour digérer tout cela, et dans un instant le quiz, et on parlera un petit peu de l'Algérie, et si on a le temps, des 33 listes, quoi qu'on a déjà parlé des 33 listes pour les européennes. Est-ce que vous répondrez?
34,
pardon. Oui, vous voyez, j'ai du mal à accepter la 34e. J'ai tellement été formaté avec les 33, déjà, que je trouve ridicule, parce que 33, c'est beaucoup trop.
Vous êtes comme France Info, quoi.
Ouais, non, je suis pas comme France Info, heureusement. Restez bien avec nous sur votre radio France Maghreb 2, chez Mike Mehdi, Farid Tem Samadi, Tarek Mami.
C'est France Maghreb 2, France
18h.
Tout ça, c'est la même maison.
Ah bon?
Ça donne de la formation.
Ah oui, d'accord. Et puis ce soir, 19h, parlez d'islam avec l'imam Mohamed Bajrafil, là tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Alors, il nous reste quelques minutes, messieurs, pour se divertir un petit peu, parce que ça fait du bien quand même. On a été trop sérieux, surtout à Farid, Mehdi et Tarek. Là, c'est vraiment trop sérieux, les gars.
On laisse les quatre jours. Je veux pas me moquer de mes autres collègues chroniqueurs, mais on vous laisse le reste de la semaine pour apporter une partie de la légèreté, là, le vendredi. C'est mamie.
Bon. Alors, tiens, petit quiz. Ah, le petit quiz. Nous voici, voilà. Mehdi, Tarek, Farid. Attention, il va falloir être rapide, messieurs.
Alors, moi, je dis à tous les auditeurs qu'en fait, j'ai été chercher le quiz. J'ai tout appris par cœur, ou presque.
Ouais.
Mais c'est pas le même dossier, c'est pas ça. Le même éphéméride.
Ah, ouais.
Et pour être honnête avec mes deux autres collègues, je mets le papier éphéméride sur la table à ma gauche, donc c'est la mémoire ou rien.
Bon.
Je
confirme. Alors, première question, on est un 10 mai 1968, on est à Paris, des émeutes et les barricades se dressent. Dans quel quartier
Quartier
de Paris
latin.
Quartier latin, bravo Tarek. Le quartier latin, vous l'avez vécu 68, non?
Presque.
Non.
Non, non, je suis venu 7 ans après. mais c'est comme si je l'avais vécu.
Ouais.
J'ai tout appris de cette mai 68, d'où mes comparaisons un peu difficiles avec les gilets jaunes.
Et c'était le 10 mai 68?
Non, mais entre autres, ça a duré, ouais. ça a duré, mais le 10, il y avait aussi les barricades.
Parce que le 10 mai 80, qui est la prise politique de mai 68,
t'as pas le droit. T'as pas le droit à Paris. C'était ma prochaine question. Attention, on est en 81. Quel est le président qui a été élu? La première fois un président de gauche.
Giscard a perdu. Giscard a perdu. Laisse mes collègues parler. Giscard a perdu.
Quel est le premier président de gauche à être élu au système?
De gauche ou d'extrême droite?
Non, de gauche.
D'extrême droite, passé à gauche.
Ah, d'extrême droite devenu de gauche.
Ah oui,
c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Bon, c'est.
Évidemment. C'est le monsieur qui a été décoré par Pétain.
L'ami à Papon.
Voilà.
Exactement.
Bon, tout le monde est d'accord, c'est François Mitterrand. On est en 2006. Je vous demande quel est le président français qui instaure une commémoration annuelle pour l'abolition de l'esclavage.
Chirac.
Bien. Datant du 27 avril.
Il n'a pas fait que ça, il a fait aussi la commémoration.
Bien sûr.
Voilà, des génocides.
27 avril 1948. Hein.
Voilà, ouais.
Et puis tiens, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Vous vous rappelez certainement, ça avait fait l'actualité évidemment de profanation d'un cimetière juif.
Carcassonne.
Carcassonne.
Non mais elle est.
Et en quelle année c'était? En quelle année, vous vous rappelez?
1990.
Bravo Mehdi. 90, 7ème de carte. Alors, on en avait beaucoup parlé, hein, mais c'était cela dit, gravissime quand même. Hein. Ouais. C'était 34 tombes, je crois, qui avaient été profanées.
Alors, avec plein de
péripéties.
Voilà, j'ai pas voulu dire un autre mot avec plein de péripéties derrière. Et le président de la République qui descend pour la première fois dans une manif dans la rue.
Bon, oui, vas-y Farid, je t'en prie, avant la dernière question histoire.
C'est Mitterrand, En fait, Mitterrand, comme a toujours su le faire, a exploité.
Oui, voilà. J'ai pas voulu utiliser ce mot-là.
Mais malheureusement.
C'est pour ça que je vous remercie pour péripéties.
Oui, non, mais malheureusement, il a exploité pas ce crime, mais en tout cas, cet acte odieux de profanation à des fins politiques pour faire davantage monter l'extrême droite, comme il l'a toujours fait notamment, et comme d'autres personnes l'ont fait aussi après lui, notamment un autre François président.
Ouais. Alors le même jour, s'il faut que vous permettez, cher Christophe.
J'ai une question histoire. Vous
oui, le TGV Atlantique a battu son propre record même jour.
C'est vrai.
Le même jour, et c'est la seule info qui m'intéresse, Mandela devient président. Ouais. Et Mandela, c'est quand tu veux, tu peux. Et notre indépendance et notre liberté ne sera totale que le jour où le peuple palestinien l'obtiendra.
Exact. Allez, une question histoire, messieurs, on va voir si vous êtes calé là. Je vous demande le nom du traité qui a mis fin à la guerre franco-allemande de 1970.
C'était Versailles.
Non.
Ah. 1970, ça,
Quel est le nom du traité qui met fin à la guerre 1870.
Franco-allemande
1870-1971.
J'ai oublié. Bien vu.
Le traité de
Brückenstrauf.
Non.
Brückenstrauf.
Non, on s'y rapproche.
Breckenstein.
On se rapproche.
Brockensterg.
Enfin, ça veut dire que c'est dans ce pays-là, quoi. Le traité de
Düsseldorf.
Weisberg.
Non, le traité de Francfort, messieurs.
Non, mais parce que c'était l'Allemagne qui a gagné. C'est pour ça que la France a fait signer deux fois l'armistice et en France pour Versailles, pour 45. D'ailleurs, dans le même train deux fois pour bien humilier les Allemands.
Bon, alors qui a gagné la personne en fait? Tout le monde a gagné quoi.
Non, mais nous on joue au trio.
Bien sûr.
Il y a forcément bien un sûr. Gardien, un défenseur.
Comme dans les grosses têtes, une réponse collégiale.
L'équipe du Grand Fort, exactement. Merci beaucoup Mehdi. Voilà. Bon, bah messieurs, je vous souhaite un excellent
5
week-end.
5 secondes pour dire que donc le 18 mai à partir de 20h, il y aura le dîner annuel de l'Institut ESH.
USH.
Et ils auraient pu choisir plus simple.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, qui est présidé par notre ami
Djaballah.
Ahmed Djaballah qui intervient donc tous les mercredis.
Le mercredi 19h.
Voilà, et il vous en dira lui-même beaucoup plus la semaine prochaine avec notre ami Christophe, et il faudra vraiment y aller parce que pour une fois qu'il y a un institut qui forme les jeunes à cette culture islamique, mais d'une manière rigoureuse, il faut y être.
Bon, merci mon Farid.
Samedi 18.
Merci à vous.
Sahaf Torek pour ce soir.
Alors, à Lyon, Sahaf Torek, mais
vous 21h, il mange.
Il nous gagne de quelques minutes.
Ah, bah carrément, 20 minutes.
Voilà, 20 minutes. Presque. Alors que nous trois, on est condamnés à la même heure, en gros 25, quoi.
Non, 20.
Je me gratterai les dents avec un cure-dent, pensez à vous, à 21h19.
Non, non, mais en fait, on fera le contraire. Si vous êtes solidaire de l'équipe, vous attendrez comme nous. Vous aurez le droit au verre d'eau et à la date. Parce qu'il faut rentrer.
Allez.
Il faut rentrer. Et après.
Chiche, me dis.
Et on s'envoie à WhatsApp pour dire maintenant on peut tous manger.
Voilà. Et le 24 mai, on fait.
Je vous promets rien quand même.
T'as bien raison.
Et le 24 mai, on se fait un petit temps, les gars, entre nous. Salut. Merci. Bonne soirée, les gars. Et bon week-end. Dans un instant, le jeu du Ramadan, le grand jeu du Ramadan. C'est la finale, c'est vendredi. Et c'est aujourd'hui que le billet Algérie-Maroc-Tunisie va tomber. Pour qui? Eh bien, parmi les 4 personnes qui ont gagné à chaque jour, eh bien, la parité est même respectée dans les jeux de France Maghreb 2, puisque c'est 2 filles et 2 hommes qui seront aujourd'hui en compétition pour gagner ce billet d'avion. A tout de suite. Merci d'écouter France Maghreb 2. Une excellente soirée à vous.